Cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 4 juin 1993.
Il n'y a pas d'induction. C'est très important de découvrir soi-même ce qu'est l'induction. Et on voit très bien qu'au plan logique, c'est la vie de l'intelligence dans son appétit de découvrir ce qu'il y a de premier. Donc, il faut réveiller cet appétit d'intelligence qui, la plupart du temps, est éteint et on s'arrête aux conclusions. Donc, quand on s'arrête aux conclusions, on peut accumuler une information. Mais on n'éveille pas l'intelligence. Et quand l'information est trop forte, il y a un poids tellement lourd que l'intelligence ne s'éveille plus. Je crois que c'est un des phénomènes très nets de notre monde d'aujourd'hui. Avec l'imprimerie, la découverte de l'imprimerie, les informations se sont multipliées. Sont étonnants. Et tout ce qu'on édite, il y a à boire et à manger. Et tout ça s'accumule. Et dès qu'on doit faire un travail dit scientifique, il faut avoir tout regardé. J'ai toujours vu ça, c'est un fait qu'un étudiant peut avoir comme une intuition réelle. Intéressante. L'intuition est à la base de l'interrogation. On a une interrogation qui éveille l'intelligence. Et là, la première chose qu'on dit, c'est status questionis. La vieille chose, mettez l'état de la question, c'est-à-dire faites l'information sur tout ce qui a été dit sur ce sujet. Alors, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et au bout d'un certain temps, il y a un tel poids que la petite flamme du début disparaît. C'est très curieux, ça. Et c'est normal, parce qu'au fond, l'induction, c'est la petite flamme. C'est le feu nouveau de l'intelligence qui veut connaître quelque chose. Elle a eu une intuition nouvelle, l'intelligence. D'où une question. On s'aperçoit que cette question est beaucoup plus difficile qu'on la pensait. Qu'il y a du pour et du contre. Qu'il y a des tas de choses là-dessus. Et puis, l'information est tellement lourde qu'on n'arrive plus à la dépasser. Et c'est le phénomène d'aujourd'hui. Hein. Aristote n'avait que quelques philosophes avant lui. Nous, on a une montagne de philosophes. Il y a 2000 ans après Jésus-Christ, plus toute la philosophie grecque, et on dira bientôt toute la philosophie d'Inde. Alors, vous voyez ce que ça fait. Et comme les gens deviennent de plus en plus intelligents, l'évolution, de plus en plus intelligents, ça augmente l'information. Tout le monde écrit. Alors, il faut écrire à tout prix. Et c'est obligé. Dès que vous enseignez dans une université, vous êtes obligé d'écrire. Autrement, on ne vous considère pas. Donc, on voit très bien la course à l'écrit, d'où l'information énorme. sauvegarder ça pour être intelligent. Et c'est pour ça que c'est si important de saisir ce que représente cette petite flamme qui dépasse les opinions. L'information, c'est les opinions. C'est très intéressant, mais il faut assez vite découvrir les extrêmes, les positions extrêmes, qui font partie justement du status questionis. Aristote dit cette chose très juste, que toute la dialectique d'information, l'information réclame la dialectique, toute la dialectique d'information, c'est pour éveiller l'intelligence et lui montrer où il y a des points chauds de difficulté. Mais il ne faut pas que l'intelligence perde son appétit de vérité. Autrement, elle devient terne et on n'a plus cette vigueur intellectuelle qui consiste à savoir que l'intelligence n'est pas faite pour les opinions. C'est le conditionnement de votre indulgence. C'est que je suis avec des hommes qui sont aussi intelligents que moi, dont je dois respecter leur opinion. Leur opinion, c'est horizontal. Et l'induction est verticale. Elle fait entrer dans le principe. Il faut bien se rappeler ça aujourd'hui. C'est pour ça que l'induction aujourd'hui est si difficile à cause de ce point d'information. L'induction, nous l'avons vu, c'est l'expérience qui me donne une certaine connaissance de la réalité et qui me fait comprendre aussi que cette réalité me dépasse. Je ne la connais pas entièrement. Il y a ordinairement, à partir de cette expérience, une sorte d'intuition. Cette réalité étant donnée ce caractère particulier qu'elle a. Et peut-être autre chose. Voyez, je prends le livre Zeta d'Aristote, qui est une merveille pour comprendre ce que c'est que l'induction. Alors, non plus la première induction qu'on avait vue l'autre jour, je ne reviens pas là-dessus. Celle-là est très simple. Blancheur, elle est capitale. C'est l'induction qui implique le fait de formaliser. Blanc, le mur, c'est concret, j'en ai l'expérience. J'ai l'expérience du mur et de la blancheur du mur. Et je veux savoir ce qu'est le blanc. L'interrogation est simple. Qu'est-ce que c'est que le blanc? Et pour savoir qu'est-ce que c'est que le blanc, je veux détacher le blanc du mur intellectuellement. Oui, la séparation. Je sépare le blanc du mur et je veux regarder le blanc pour lui-même. Or, ordinairement, si je n'ai pas plusieurs expériences du blanc, je le fais très difficilement. Oui. Si je n'ai vu le blanc que le blanc du mur. C'est possible. Première chose que un gosse voit, c'est le blanc du mur. Et il n'a pas vu d'autre blanc. Il n'a jamais vu la neige. Il n'a jamais vu un visage blanc. Il n'a jamais vu et ainsi de suite. Alors, blanc, c'est attaché au mur. C'est vissé au mur. Et je ne vois pas la possibilité de distinguer le mur et le blanc. Oui, je peux. Si je vois un mur rouge, si je vois un mur non blanc, si je vois un mur noir, je vois que le mur n'est pas lié au blanc. Vous voyez ? Ou bien j'ai l'expérience de différents blancs. Vous voyez ? Les deux expériences qui montrent la composition du blanc du mur. Une fois que j'ai compris la composition du blanc du mur, je peux formaliser. Qu'est-ce que c'est que le blanc? Je formalise dans le langage moderne, je thématise. Ça revient au même. Je ne sais pas du reste pourquoi on dit thématise et pourquoi on dit on ne veut plus que c'est formalise. que c'est deux choses différentes. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que le blanc? Alors, vous voyez, comme l'interrogation est importante, puisque dans l'interrogation, j'anticipe la découverte. C'est pour ça que toute interrogation vraiment bien posée repose sur une sorte d'intuition. Avant de poser qu'est-ce que c'est que le blanc, il faut avoir l'intuition que le blanc n'est pas uniquement le blanc du mur. J'ai donc l'intuition d'autres blancs. Et ayant l'intuition d'autres blancs, j'ai là, par le fait même l'intuition de, d'une certaine manière, le blanc en soi. Et je pose la question, qu'est-ce que c'est que le blanc? Et me posant la question, qu'est-ce que c'est que le blanc? Je découvre la blancheur. Et c'est vraiment la blancheur qui est le blanc en soi. Mais quand je pose la question, alors pourquoi la blancheur est-elle bien en soi, le blanc en soi? Parce que la blancheur isole cette qualité blanc de tout le reste. C'est le terme abstrait de blanc. Je ne regarde que cette détermination, que cette qualité qui est blanc. Et ne regardant que cette qualité de blanc, je dis la blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Ce par quoi le blanc du mur est blanc. Ce serait plus juste de dire ça, vous voyez. Ce par quoi le blanc du mur est blanc. Parce que ce par quoi le blanc est blanc, c'est un peu une petite pétition. De blanc. C'est un peu une pétition, ça. Tandis que si vous dites ce par quoi le blanc du mur est blanc, ah oui, je comprends. C'est quelque chose qui s'ajoute au mur. C'est quelque chose qui vient au mur, de l'extérieur du mur. Le mur par lui-même n'est pas blanc. Il a besoin de la blancheur. S'il n'y avait pas la blancheur, le mur ne serait pas blanc. Parce que le blanc du mur est extrinsèque au mur. Donc, oui, tout ce qui est impliqué hein, dans un raisonnement inductif, il y a des quantités de pensées. Le raisonnement inductif me fait comprendre ce que c'est que la raison formelle. Alors, le résultat, la raison formelle. Voilà au point de vue logique. Qu'est-ce que je cherche? Savoir ce qu'est le blanc et séparer le blanc de tout ce qui n'est pas le blanc. Ramener le blanc au blanc. Cette induction, je vais la retrouver à un niveau supérieur parce que cette première induction conduit à la définition. Blancheur. Je peux définir la blancheur, c'est une forme en soi. C'est une qualité. Je définis donc la blancheur, une qualité, une détermination qualitative. Le blanc du mur. La blancheur, c'est ce qui permet au mur d'être blanc. Deuxième induction, ça c'est la forme élémentaire de l'induction qui conduit à la définition par genre et différents spécifiques. Je dirais la blancheur est une qualité, voilà le genre. La blancheur est telle qualité, c'est une qualité sensible que mon œil détecte. Par excellence, la synthèse de toutes les couleurs, c'est le blanc. Donc, je genre différent spécifique. Je vois que c'est une qualité. Tandis que quand je dis blanc du mur, je ne l'ai pas en définissant la blancheur. Je peux. Deuxième induction, la découverte des principes propres. On est deux à pédaler le gâteau. On est deux à faire la sauce. Celui qui dit ce qu'il faut faire et puis l'autre qui tourne à des vivants. C'est pour ça que c'est le gâteau. Vous aurez donc deux. et celle des sciences modernes. Je crois qu'on peut parler de ces différents types d'induction. Alors, si vous voulez, je prends l'induction, celle de la substance et celle de l'être en acte. Parce que je crois que c'est celle-là qui vous intéresse le plus. Ce sont les plus difficiles, donc ça vous intéresse. Ce sont les plus difficiles, c'est vrai. Et ce qui est intéressant de voir, que c'est dans ces inductions-là, toute la phase d'information est très importante pour nouer le problème. Quand vous posez la question, qu'est-ce que c'est que l'être, le TST, qu'est-ce l'être ? Vous posez cette interrogation, qu'est-ce l'être ? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a de premier ? Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'être ? Premier selon la forme. Premier selon la fin. Puisqu'il n'y a pas de premier selon la matière. Il n'y a pas de premier selon la cause efficiente. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lune et l'hippopotame? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lune et moi-même? Nous existons. Alors pourquoi se poser cette question? C'est la première chose qu'il faut se poser, c'est pas. Pourquoi se poser cette question? Est-ce que c'est une curiosité? Ou est-ce que c'est une nécessité vitale? C'est une curiosité, c'est pas la peine d'insister trop, parce qu'il faut pas exciter les curiosités. C'est une nécessité vitale, alors il faut être très, très, très vigilant. Or, c'est une nécessité vitale de poser cette question, qu'est-ce que c'est que l'être, pour connaître ce qu'il y a de plus radical en moi, dans mon je suis. Et, en plus, c'est une nécessité radicale pour savoir si, parmi toutes les réalités qui existent, l'homme est la première de ces réalités. L'homme est la réalité parfaite à l'égard de toutes ces réalités. Il y a l'interrogation de la réalité actuelle et l'interrogation de savoir s'il existe et s'il peut exister d'autres réalités. C'est très curieux que dans cette interrogation-là, le possible joue un rôle important pour m'interroger, savoir qu'est-ce que c'est connaître. Parce que si je ne connais pas ce qu'est l'être, je ne pourrais pas me poser la question, est-ce que cet être que je vois, que je constate, qui est moi, qui est le plus parfait de tous les êtres que je peux expérimenter, je ne peux pas savoir si il est possible qu'il existe un autre être. Pour cela, il faut connaître ce que c'est que l'être en lui-même. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que c'est avec la philosophie première que tout de suite, il y a le dépassement de l'expérience. Et le dépassement d'expérience joue un rôle important dans l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» pris en lui-même. Parce que quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je suis devant une interrogation fondamentale. Radical, je ne peux pas aller au-delà. Parce que je vois que la matière n'est pas radicale comme interrogation, qu'est-ce que c'est que la matière? Et que la vie n'est pas non plus l'interrogation radicale. Pourquoi? Parce qu'il y a des êtres qui existent et qui ne sont pas vivants. Mais ces êtres qui existent et qui ne sont pas vivants sont la matière. Pourquoi la matière n'est-elle pas l'interrogation la plus radicale, alors qu'elle apparaît comme la plus fondamentale? C'est que celui qui interroge découvre en lui quelque chose qui est spirituel et qui n'est pas la matière. Donc, il ne peut pas expliquer sa vie intellectuelle par la matière. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on prétendra cela. Tout par les découvertes biologiques. Mais si je réfléchis, parce que ceux qui disent ça ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. S'ils réfléchissaient, ils verraient que le contenu de leur réflexion n'est plus d'ordre physique. L'universel. Le contenu de leur réflexion a un mode universel. Et ce mode universel, il provient de leur intelligence. Et c'est un être de raison. Et l'être de raison n'implique pas de la matière. C'est un antimatière. Vous voyez, c'est très très important de comprendre que l'imagination du possible apparaît tout de suite pour se poser la question qu'est-ce que c'est que l'être. Alors, on découvrira en définitive ce que le possible à partir de l'être en acte. Donc la première question, qu'est-ce que c'est que l'être en lui-même, dans sa détermination fondamentale? Autrement dit, qu'est-ce qui est premier dans les réalités qui existent? Voilà l'interrogation. Et là, vous dites, là, je suis obligé de faire toute une enquête. Je pourrais tout de suite regarder ça. Mais normalement, je fais une enquête. Alors, c'est intéressant, ça montre que l'interrogation, au point de vue intuitif, cette interrogation, pour porter tous ses fruits, implique une démarche dialectique pour nouer le problème. Et c'est là où je peux très bien me servir de tout ce que les philosophes ont pu dire, les opinions des philosophes. De voir que telle philosophie considère comme ce qu'il y a de premier la qualité. Ils ne vont pas au-dessus. D'autres, la relation. D'autres, la substance. Autrement dit, je me sers de cette table qui découvre toutes les déterminations de la réalité humaine, qui est la réalité la plus complexe et la plus parfaite, ce qu'on appelle la table des prédicaments. Et je vois que la table des prédicaments me permet tout de suite de préciser l'interrogation sur la substance. Qu'est-ce que c'est que la substance comme réalité première à l'égard de l'être ? Parce que tous les autres sont relatifs à la substance. Selon la table des prédicaments, des dix prédicaments. Hein. Je vous ai dit qu'il faut savoir par cœur les dix prédicaments. Il faut surtout les découvrir. Hein. Faites l'inventaire de toutes les déterminations qui sont en vous. Ça, vous pouvez le faire devant une glace. J'ai des qualités. J'ai une quantité. J'ai des relations. Je suis dans le temps, je suis dans un lieu, je suis capable de bâtir, je suis capable d'agir et de me défendre, et ainsi de suite. Vous avez 10 déterminations en vous. Cherchez, vous n'en avez pas d'autres. Un petit travail, au-delà des 10 déterminations. Je vous donne ça comme travail. C'est un excellent petit travail. Si vous faites quelque chose de bien, vous serez dispensé d'examen. Au-delà des 10 déterminations, des 10 prédicaments. Et je m'aperçois que les 10 prédicaments me mettent en face de la substance, mais de la substance dans son double rôle. Ah. Son rôle de sujet, c'est Pierre, l'individu. Et puis, son rôle beaucoup plus précis, spécifique, homme. Pierre est un homme. Quand je dis Pierre est un homme, je suis en présence de deux substances, c'est-à-dire de deux déterminations fondamentales. Homme et Pierre. Puisqu'il y en a deux, elle n'est pas première. Hein, vous voyez, c'est là où joue le nœud qui m'oblige d'induire. Parce que si j'étais en face d'une détermination première, je l'aurais. Je pourrais dire, je découvre la détermination première de ce qui est. Or, je ne la découvre pas de cette manière-là. J'ai l'expérience de Pierre. J'ai l'expérience de homme. Expérience externe, Pierre. Expérience interne homme. J'ai les deux expériences. constate que Pierre existe. Et on constate que Pierre est un homme. Pourquoi ? Parce que j'ai la définition de homme. Qu'est-ce que c'est qu'un animal raisonnable ? Or, Pierre est un animal, il a deux pieds. Et il est raisonnable, il a deux mains. Un être raisonnable qui a une main. C'est curieux. La raison se préfigure à travers la main, pas à travers le pied. La main est plus noble que le pied. Il y en a qui aiment mieux les pieds. Mais la main est plus noble. La main dénote l'intelligence, pas le pied. La main libère le pied. Au contraire, elle lui donne la nécessité de porter le corps. Comme pour beaucoup d'autres animaux, les quatre pattes portent le corps. Et vos quatre pattes. L'homme est un être aérien. Pas tout à fait, mais il pousse vers, puisque il peut être debout. Alors il suffit qu'il y ait deux petites ailes qui poussent pour qu'il décolle. Mais ce qui est sûr, c'est que Pierre et homme sont tous les deux premiers au point de vue des déterminations. Si tous les deux sont premiers au point de vue des déterminations, je ne sais pas quelle est la première détermination de la réalité. Il y en a deux. Et deux qui s'enchevêtrent et qui sont inséparables l'une de l'autre. Homme vient de Pierre et Pierre fait qu'homme existe. Et homme a quelque chose que Pierre n'a pas puisqu'il est universel. Alors, une fois que j'ai bien posé l'interrogation de cette manière, je vois nécessairement que ce qu'il y a de premier dans l'être, c'est un dépassement de toute détermination. J'essaie de découvrir la source de toute détermination, ce qu'il y a de commun entre eux. L'un ni l'autre ne peuvent être premiers de façon absolue, puisque l'un et l'autre se tiennent. Il s'agit de découvrir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, au-delà de la définition, au-delà du concret. Qu'est-ce qui est au-delà du concret? Et de l'abstrait, c'est l'être. L'être n'est ni concret ni abstrait, et l'être est concret, il est abstrait. Dépassement du concret et de l'abstrait. Et le dépassement du concret et de l'abstrait ne peut se faire qu'au niveau de l'être. La substance, donc ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, selon la forme, dans le prolongement de la forme, c'est ce principe propre de la réalité qui fait l'unité de cette réalité. C'est le principe, ce qui est antérieur, qui peut seul faire l'unité. Voyez, le tout, il est parti. Voyez la démarche inductive différente de la démarche dialectique. Jusque-là, on peut dire que c'est commun à la dialectique. J'ai déblayé le terrain. C'est lorsque je suis en face de la dualité que je fais quelque chose de différent que la dialectique. La dialectique va essayer de faire la synthèse de l'opposition dans l'au-delà. Tandis qu'au contraire, la démarche inductive chercher non pas la synthèse mais la source, ce qui est premier, au-delà de cette dualité.